Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs et publics. Donc, bienvenue sur les ondes, on est bien à l'écoute sur le 104.1, le 103.3, le 102.0 et le .org pour le reste du monde. Eh bien, Radio Escapade est installée depuis ce matin avec son studio mobile au cinéma Le Palace, au Vigan. Bienvenue sur les ondes pour une émission spéciale en direct et en public. Une émission spéciale dans le cadre de la 3e édition de la journée décalée avec pour thème « Aller vers ». Un travail social organisé par Inter-Aid et ses partenaires. Alors, ses partenaires qui sont la mairie du Vigan, le conseil départemental du Gard, la Tessonne, l'association éducative du Mas Cavaillac, les amis de Tahitiou, si je ne me trompe pas, Tahitiou, communauté des communes du pays viganais, DAC 34, qui veut dire dispositif d'appui à la coordination, et un public depuis ce matin de 230 professionnels qui ont participé donc aux deux conférences et aux ateliers de l'après-midi. Donc cette émission spéciale, elle est là un peu pour conclure et faire un retour sur des ressentis de cette journée. Donc ce matin, deux conférences avec donc on avait Cyprien Avenel et Guy Hardy, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc une journée où la notion d'aller vers un travail social a été questionné, réinterrogé, des échanges d'expériences également, des témoignages, de aussi comment est-ce qu'on prend du recul lorsqu'on est travailleur social. Alors moi qui fais la radio, je vous avoue que depuis ce matin, j'ai un petit peu quand même le cerveau qui est assez chargé parce que je me suis rendu compte que finalement c'était un secteur qui était aussi, très en souffrance et j'étais quand même très très loin d'imaginer ça. Donc ça a été un peu ma découverte de cette journée. Donc cette émission va nous permettre un petit peu de faire le bilan. Et puis comme la tradition veut souvent dans des émissions comme celle-ci, on va démarrer avec le président d'Inter-Aid, donc Philippe Verseil. J'espère que je n'écorche pas votre nom.
C'est parfait.
Alors, vous êtes président d'Inter-Aid. Est-ce qu'on peut dire, surtout aux auditeurs et aux auditrices, qu'est-ce que c'est qu'Inter-Aid ?
Ah, je ne sais pas si je vais arriver à définir correctement Inter-Aid. Je fais ça sous le regard de tout le personnel qui est là. Bon, Inter-Aid, c'est une association d'une quarantaine de salariés qui intervient sur un secteur géographique qui va du Vigan jusqu'à Nîmes. Puisqu'on a des implantations un peu sur tout cet axe-là, et qui intervient dans trois secteurs, sur trois pôles, le pôle de l'hébergement et du logement, le pôle de l'insertion et le pôle aussi médico-social, en particulier avec un centre d'addictologie, un XAPA, et puis tout récemment des ACT, des appartements de coopération thérapeutique. De coordination thérapeutique.
Et donc, l'organisation d'une journée, donc la journée décalée, on est quand même sur la 3e édition, elle a quel but pour l'association Inter-Aid ?
Alors, d'abord, je trouve que parler d'escapade, de journée décalée, c'est tout à fait indiqué. C'est une vraie escapade que nous voulons proposer pour que tous les professionnels qui travaillent sur des secteurs très différents, au service de dispositifs très différents, souvent très éclatés, très éloignés les uns des autres, et la possibilité de prendre un peu un pas de recul et de réfléchir ensemble sur un certain nombre de questionnements qui sont transversaux. Donc je crois que c'est vraiment se décaler du quotidien pour essayer de devenir des personnes peut-être un peu plus calées sur les questions qui sont les questions fondamentales. Je crois que ça, c'est important. Et le deuxième élément, c'est là aussi de permettre des rencontres, des discussions, des échanges avec des personnes qui sont engagées dans des actions sociales, médico-sociales et autres différentes, et qui peuvent permettre d'avoir des regards croisés et peut-être une compréhension plus globale des problématiques des personnes auxquelles nous nous adressons.
Et vous, en tant que président d'Inter-Aid, est-ce que vous venez du secteur social ou pas forcément ?
Alors j'ai une partie de mon parcours professionnel a été effectivement engagée dans des actions et dans des dispositifs sociaux, oui, tout à fait.
Et votre ressenti là sur cette journée ?
Je trouve d'abord que les intervenants que nous avons eus ce matin étaient de très grande qualité et je trouve aussi d'une très grande liberté de parole, d'analyse et d'interpellation. Parce qu'on est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des secteurs en souffrance et je dirais en très grande souffrance. D'abord parce que les personnes auxquelles nous nous adressons sont de plus en plus nombreuses et sont dans des problématiques de précarité ou d'exclusion qui sont de plus en plus lourdes. Que les dispositifs publics, et ça a été rappelé ce matin, sont de plus en plus des dispositifs empilés les uns sur les autres, souvent plus pérennes, avec des solutions financières qui sont à court terme, et donc rendent la gestion de tous ces dispositifs et la gestion de ces actions extrêmement difficile. Et donc voilà, j'ai trouvé très intéressant les interpellations qui nous ont été faites ce matin et la vision un peu de l'évolution de la prise en charge sociale dans notre pays. Je trouvais tout à fait pertinente, un peu désespérante peut-être, mais aussi motivante parce qu'elle nous invite, et ça a été dit à la fin de la première intervention, elle nous invite au risque et à la coopération. Et donc je trouve que c'était très, très intéressant. Et puis voilà, c'est toujours pour nous très réjouissant de voir qu'il y a 230 personnes qui ont participé à ces rencontres venant du secteur, du territoire ici, mais bien au-delà. Et je crois que ça prouve qu'il y a une nécessité de se décaler de temps en temps, de prendre des temps de réflexion, d'interpellation, de discussion, de partage. Ça peut nous permettre, et il me semble que c'est ce qui est ressorti aussi dans la discussion de l'atelier auquel j'ai participé, ça donne aussi une impulsion, une vision et peut-être un dynamisme nouveau.
Merci beaucoup. Alors, Monsieur Avenel, ce matin, vous êtes intervenu. Hein, c'était donc la première conférence. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être vous pouvez vous présenter très rapidement pour les auditrices et les auditeurs, hein, parce que le public ici présent sait très bien qui vous êtes, en quelques mots.
Donc, Cyprien Avenel, je suis sociologue, professeur associé à l'Université Paris-Saclay et j'enseigne dans d'autres universités comme le CNAM à Paris, notamment dans la chaire du travail social. Et j'ai une identité, même si aujourd'hui je suis venu en tant que sociologue uniquement, notamment pour ma liberté de parole, j'ai aussi un rôle en fait de sociologue dans les institutions, notamment au ministère, en étant producteur de connaissances, mais aussi passeur, c'est-à-dire de diffusion entre les travaux scientifiques, institutionnels et le monde de la décision, et ce, dans le secteur des politiques sociales et des métiers du travail social depuis un certain nombre d'années. Et à ce titre, j'ai notamment conduit, animé, co-présidé et rédigé des rapports sur le travail social qui tentent de requalifier les métiers et le sens des missions. Voilà. Et le dernier en date étant le livre blanc du travail social.
Merci. Alors ce matin, dans votre conférence, hein, on est toujours sur le thème d'aller vers en travail social. À un moment donné, vous avez dit aller vers, pourquoi, de quoi l'on parle. Alors peut-être une petite présentation un petit peu de ce thème. Alors je sais que ça ne va pas être facile parce que je vais vous dire en quelques minutes, mais peut-être une notion globale. Peut-être ce matin, vous avez quand même fait une conférence un peu historique. Peut-être partir sur ce que c'était et ce que c'est aujourd'hui.
Alors effectivement, alors très rapidement, j'ai commencé mon intervention par un étonnement qui relevait un petit peu une situation paradoxale aujourd'hui où, en fait, depuis la crise sanitaire qui a remis à l'ordre du jour, en fait, ou mis en visibilité la nécessité d'aller vers les populations, notamment qui étaient isolées, pour prendre soin de leur situation économique par rapport à l'alimentation ou par rapport à la santé, notamment les personnes âgées isolées. Mais pour relever, d'où l'étonnement et le paradoxe, que cette notion de l'aller vers est en fait une pratique qui vient de très loin, de tellement loin qu'elle nous renvoie au fondement de la professionnalisation du secteur, tout simplement au cœur de métier. Et tout le sens de mon propos était de voir comment se fait-il qu'aujourd'hui, on réactualise cette notion comme une innovation, voire une nouveauté, alors qu'en fait, elle nous renvoie au cœur de métier. J'essaie de retracer ce parcours historique pour mettre en évidence, et du coup, pas simplement une continuation de ce qu'il faisait avant, mais aussi la nécessité d'une nouvelle posture d'aller vers les populations dans une société qui s'est profondément transformée, puisque les difficultés du travail social, c'est aussi qu'on lui demande bien plus de ce qu'il ne peut faire face au choc de transformation de la société. Ça, c'est très important, c'est-à-dire la montée du chômage de masse, de la désaffiliation, des inégalités territoriales. Bon, il y a tout un tas de sujets auxquels doit faire face et qui sont des chocs absolument vertigineux. Et de ce point de vue-là, il est vrai que certaines populations ont un petit peu décroché de la société, désaffiliées, on les a un petit peu perdues en cours de route. Ils sont en dehors du radar des institutions. Et c'est vrai que tout le sujet est d'aller les récupérer pour essayer de leur faire accéder aux droits sociaux fondamentaux dont ils doivent bénéficier. Deuxième sujet absolument important, c'est qu'il renvoie à une évolution institutionnelle, la façon dont on a mis en œuvre et créé de nouvelles politiques publiques. C'est que, très paradoxalement, je le dis trop schématiquement, de plus en plus ces 30 dernières années, les intervenants sociaux, les travailleurs sociaux ont été un petit peu insérés au sein d'un certain nombre de normes, de procédures, de dispositifs qui se sont, on l'a dit, le président tout à l'heure, empiler les uns avec les autres, ce qui fait que tout ça est devenu de plus en plus une sorte de carcan, alors qu'ils sont, il ne faut pas critiquer les dispositifs sociaux parce que ce sont des filets de sécurité et les derniers filets de sécurité, de mise à l'abri qui participent des droits, mais tout ça a donné une grande complexité administrative à l'ensemble des politiques sociales et a beaucoup compliqué l'action de proximité des travailleurs sociaux, puisqu'on a insisté finalement à un repli des institutions sur elles-mêmes, en logique de permanence sociale, de guichet, où on attend que les bénéficiaires viennent, sauf que dans la complexité, le maquis administratif de ces aides, beaucoup de bénéficiaires et les travailleurs sociaux eux-mêmes ne comprennent plus très bien le système et les critères d'attribution. Donc ça a produit fondamentalement du non-recours au droit et dans des proportions relativement importantes et qui a légitimé effectivement la nécessité de renouer, de reconquérir le territoire, de reconquérir les milieux de vie. C'est un vrai enjeu pour le travail social aujourd'hui, pour sortir de ces logiques de guichet. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement, comme on l'a dit, et les professionnels en parlent souvent, d'une posture de déplacement hors les murs, hors de l'institution, hors de l'établissement, pour aller dans les milieux de vie de la personne, pour les prendre telles qu'elles sont, là où elles vivent, là où elles en sont. Et deuxièmement, ça renvoie aussi, on en a beaucoup parlé, à une redéfinition de la posture relationnelle, de la relation d'aide, de la relation d'accompagnement. C'est-à-dire de tout un travail qui est là depuis un certain nombre d'années déjà en France, et on avance, même si ça renvoie beaucoup de complexité, ça a été tout le sens des deux interventions. C'est comment on travaille, comment on travaille avec la personne, et non pas seulement sur elle, à partir d'un diagnostic qu'on lui impose sur ses problèmes, comme le médecin fait un diagnostic du patient avec une prescription d'un médicament, comme le travailleur seul pourrait prescrire une mesure. Voilà. Donc, toute cette logique un petit peu verticale, il y a un grand mouvement, qui est une grande transformation en fait, du travail social, qui consiste à associer les personnes accompagnées aux décisions qui les concernent, et donc renvoie au fameux « faire avec » et avec la personne, ce qui est déjà un dépassement de posture absolument importante. Mais après, pour pouvoir répondre de façon non pas saucissonnée, cloisonnée sur un morceau des problèmes des gens, il faut apprendre aussi à aller interpeller d'autres acteurs des milieux de vie du territoire, par exemple pour un travailleur social, les acteurs de la santé, les acteurs de l'emploi, du logement, de l'éducation ou de la culture, pour élaborer ensemble et collectivement des réponses adaptées et pertinentes, structurantes et qui font sens dans les parcours des personnes accompagnées. Donc le fait d'être ambassadeur du territoire, que le travailleur social soit immergé dans les milieux de vie par rapport à la situation actuelle, C'est un contre-mouvement qu'il faut élaborer parce que le travail social français est trop basé sur la relation d'aide individuelle et il faut la décloisonner pour articuler et apprendre à articuler l'action individuelle qui est incontournable parce que chacun d'entre nous sommes singuliers, mais avec une action territoriale. Et c'est notamment dans l'atelier de tout à l'heure où j'étais sur la santé communautaire, c'est exactement cela le travail engagé, pas seulement sur la personne mais avec elle et puis pas le médecin tout seul mais avec aussi de la pluriprofessionnalité. Et troisième étage de la fusée, avec le milieu de vie, les acteurs, les ressources du territoire, ce qui est quand même un décloisonnement assez puissant et sort des conceptions strictes et verticales de l'expertise et de la spécialisation de chaque métier qui renvoie en plus à des silos dont on a du mal à se défaire.
Alors justement, je ne voulais pas vous couper, mais ce matin, vous avez quand même aussi évoqué toute cette lourdeur, le morcellement du développement de tous les dispositifs. Et lorsqu'on est arrivé sur la partie où vous évoquiez justement les solutions collectives de travail, faire ensemble, participer, etc., je me suis demandé, justement, avec tous ces acteurs que vous évoquez, le logement, etc., etc., je me suis demandé, justement, est-ce que ces travailleurs sociaux à qui déjà on demande énormément de choses au niveau de dispositifs, est-ce que ce n'est pas encore une lourdeur qu'on amène de mettre tout le monde autour de la table? Est-ce réellement une solution, en fait?
Oui.
C'est une question.
Aujourd'hui,
hein.
Par rapport... Moi, je pars du constat que les problèmes, aujourd'hui, dans la société française, sont des problèmes éminemment structurels et collectifs. Et qu'à des problèmes collectifs, il faut des solutions collectives. Personne, seul, aujourd'hui, dans nos territoires, peut prétendre apporter une solution efficace aux problèmes des gens qui renvoient... Aujourd'hui, le grand sujet, c'est l'interdépendance en fait des politiques publiques. Et le social, c'est pas uniquement une réponse sectorielle. Je veux dire, quand vous voulez travailler sur la question des personnes en situation de handicap, l'accessibilité, qui est le sujet majeur et même l'échec majeur en France de la loi de 2005, eh bien, c'est travailler sur l'accès à l'école, c'est sur l'accès au logement, sur l'accès à l'emploi. Et donc, c'est forcément, effectivement, même si c'est dans un premier temps chronophage, mais après, ce sont des partenariats qui s'installent dans la durée, des solutions décloisonnées, collectives, qui permettent justement d'agir efficacement sur les dimensions individuelles de l'accompagnement. Et bien souvent, d'ailleurs, dans ces actions donc collectives et plus participatives, on se rend compte qu'on arrive à résoudre des problèmes sur la situation des personnes qu'on n'arrive pas à résoudre dans le cadre de la relation individuelle de face à face à deux, qui plutôt enferme dans la situation et les problèmes des individus. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il faut passer du problème à la problématique.
Vous avez pu rester cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu peut-être un retour ou un ressenti personnel sur cette journée? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec les gens ici présents dans la salle?
Oui, alors j'ai pas avec tout le monde, mais avec certains d'entre eux, parce qu'il y a eu le déjeuner. Il y a effectivement d'abord ce que vous avez ressenti, un secteur en souffrance, mais j'ai envie de rajouter pas que quand même, parce qu'il y a des difficultés, il y a une perte de sens qui est ressentie collectivement. Et comme retour, mais là, c'est presque indélicat, parce que ça risque de trop m'auto-positiver, mais parfois, j'ai le sentiment que ça fait du bien d'avoir des mots qui ressemblent à raisonner juste sur ces difficultés-là, parce que c'est vrai que dans l'action quotidienne, comme on le dit souvent, on a un petit peu le nez sur le guidon et qu'on est englué, notamment dans les tâches administratives et la perte de sens et l'empilement des dispositifs et la difficulté de trouver des solutions positives à l'accompagnement des populations. Donc j'ai eu des retours positifs d'où l'intérêt de faire ces escapades, parce que c'est un travail collectif. On fait une pause, on prend de la distance, on met de la réflexivité, de la réflexion, de l'analyse, de l'interpellation, et ça permet de façon partagée de retrouver du sens et du souffle pour donner de la perspective. Parce que moi, j'essaye d'associer dans mon travail un diagnostic que je considère aujourd'hui sans concession et qui est même préoccupant, notamment par rapport à la crise d'attractivité des métiers, comme on dit, parce qu'il y a des problèmes de recrutement et les écoles, même en amont, par rapport aux jeunes générations, vont de moins en moins dans les écoles de formation du travail social. Donc il faut quand même le souligner. On est aujourd'hui dans une crise structurelle, et en France, structurelle parce que Elle combine cette crise à la fois des éléments de dévalorisation symbolique et matérielle, parce qu'on n'a pas dit trop ce matin, mais les salaires des travailleurs sociaux ne sont pas mirobolants. Hein. Il y a eu une perte de pouvoir d'achat ces 30 dernières années. C'est documenté. Il ne s'agit pas... c'est un constat. Hein. Ce n'est pas un engagement politique de dire ça. D'autre part, se cumule à cette dévalorisation matérielle et symbolique la fameuse perte de sens aussi, qui renvoie aux conditions d'exercice professionnel, aux conditions de travail, qui ont été bien mises en évidence par rapport au moment de protestation des retraites, où les gens protestaient autant vers les revenus pour leur retraite que pour les conditions de travail actuelles dans lesquelles ils vivent. Et en France, effectivement, un certain nombre de difficultés sont pointées par rapport à ça, notamment sur les modes de management, sur la question des décisions. Et en fait, on est quand même en France, semble-t-il, dans des organisations qui sont peu collectives et peu participatives, qui sont donc très verticalisées, hiérarchisées et encouragées par ailleurs par le mode de fabrication des politiques publiques et des logiques de financement où tout le monde est embarqué dans cette chaîne-là. Et on voit bien que de ce point de vue-là, le constat, et notamment les mécanismes d'appel à projet que tout le monde connaît dans la salle, etc., nécessite quand même de plus que s'arrêter pour voir comment on peut un petit peu faire fonctionner la machine dans un autre sens, puisque ça conduit sur le terrain à une perte de sens, en fait, de la mission. Et d'autre part, ça produit aussi une distance, une défiance des populations, des citoyens vis-à-vis des institutions. Ça, c'est un sujet très important, et notamment des populations fragilisées vis-à-vis des services sociaux. Parce que le non-recours, c'est un non-recours involontaire par rapport à la complexité administrative, mais il y a aussi du non-recours volontaire. C'est qu'à un moment donné, le coût identitaire de l'engagement dans l'accompagnement est plus coûteux que les aides matérielles ou relationnelles que l'on peut bénéficier.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être resté aussi pour participer à ce plateau radio. Pardon. Alors, je vous propose d'écouter Guy Hardy, qui n'a pas pu rester cet après-midi, mais qui nous a donné 5 minutes de son temps, là, tout à l'heure, ici, dans cette salle. Guy Hardy, vous avez donné ce matin, à la manière d'une conférence gesticulée, une conférence sur le thème de « Aller vers » dans le secteur social. Alors, ce qui était intéressant, c'est votre point de vue personnel sur votre parcours dès le départ d'éducateur spécialisé. Peut-être que des gens dans la salle ont dû se sentir, alors déjà, je pense... très touchés et ont dû aussi se reconnaître dans votre expérience et dans les exemples que vous avez donnés. Et je me dis, avoir des petites clés pour ouvrir les portes, c'est pas mal quand même.
La première des petites clés pour moi, parce que j'avais des professionnels devant moi, mais qui sont aussi parents. Tu vois, pour moi, la clé la plus importante, c'est que les parents réapprennent à se faire confiance dans l'éducation de leurs enfants. Donc ça veut dire qu'on crée, nous les professionnels, des contextes où les parents se sentent en sécurité d'être parents. Ça veut dire d'aimer leur gosse. Et je rappelle, hein, la première des choses à faire, c'est de chérir, d'aimer son gamin, etc. Mais on fait ça de telle manière à ce qu'à un moment donné, tu puisses lui mettre des limites et que le gosse puisse l'accepter. Hein, moi, je pense que les enfants ne respectent pas les limites parce qu'intelligemment, ils ont compris que c'était une bonne limite. Non, je pense qu'ils respectent les limites parce qu'ils constatent que si je respecte la limite, maman, elle m'aime encore plus et papa, il est fier de moi. Si je ne la respecte pas, mon Dieu, je perds un petit peu de leur amour. Donc, il faut créer un capital d'amour pour que tes enfants respectent les règles. Et je rappelle à tout le monde qu'éduquer un enfant, c'est mettre des limites. Les enfants ne sont pas dans la toute-puissance. Les enfants, ils ont envie de savoir qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc, il faut oser mettre des limites. Et c'est vraiment, moi, le constat que je fais dans le travail, un petit peu partout où je passe, c'est que de plus en plus de parents ont difficile de concevoir que dans leur job de parent, oui, il faut mettre des limites. Il faut dire, non, le gâteau, on ne le mange pas avec ses doigts. On prend une petite cuillère et on tient bon. Et si tu ne veux pas, eh ben on prend le gâteau et on le met dans le frigo, le temps que tu aies compris. S'il n'y a pas de petite cuillère, il n'y a pas de gâteau. Et on est dans une telle société où on a mis la pression sur les parents. Tu vois, je dis souvent, on est dans une société où les parents veulent être aimés de leurs enfants. Mais c'est quoi cette histoire? Ils t'aimeront plus tard. Moi, quand je punissais ma fille à 4 ans et demi, je lui disais, maintenant tu montes dans ta chambre. Elle n'est jamais montée dans sa chambre en me disant, merci, c'est pour mon bien. Elle me disait, t'es un méchant papa. Ma fille, elle était très perspicace. Elle me disait, c'est pas possible, j'ai été adopté. T'es un trop méchant. Puis je lui disais, allez, tu montes dans ta chambre, tu vas réfléchir au fait que tu peux pas faire ça. Et puis après, on discutera de tout ce que tu veux. Mais on est dans une société où les parents veulent tellement être aimés par leurs enfants que dès que l'enfant réagit comme ça, tu as les parents qui se dissolvent et puis qui ont peur. J'en ai parlé beaucoup dans la conférence. Alors que je suis, quand il y a une situation grave d'un enfant qui souffre, etc., je n'ai aucune hésitation, il faut signaler la situation. Mais je vois plein de parents qui sont inquiétés pour des comportements, ce que j'appelle banals, d'erreurs, mais qui sont tout à fait conscients. Un papa qui fout une claque à son gosse parce qu'il est un peu énervé, qui revient du travail. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller lancer une procédure, etc.? Non, je pense vraiment pas.
Qu'est-ce que vous pensez aussi sur la partie où ce matin, avec M. Avenel, il a été évoqué beaucoup, tout le côté administratif et puis aussi les dispositifs, les couches de dispositifs, avec à la fin une solution de faire collectif, enfin d'être proche le plus possible. Et en fait, je me suis dit, ah tiens, ils disent qu'il y a beaucoup de dispositifs. Et en même temps, on demande aux gens de se réunir autour de la table, qui amène encore une couche. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus.
Mais comme je l'ai dit dans ma conférence, je pense que pour qu'une personne devienne résiliente, se reconstruise, etc., il faut qu'il y ait le moins possible de gens qui soient conscients de son problème. Tu vois, une gamine qui a vécu par exemple un traumatisme grave, qui est, je ne sais pas, elle s'est fait battre par sa mère, battre par son père, ou pire encore, on peut s'imaginer tout. Mais c'est important que cette gamine, elle sache qu'il y a une ou deux personnes à qui elle peut parler de ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas que tous les autres le sachent, parce qu'autrement, tout le monde va la regarder comme une victime. Et si le regard que tu poses sur quelqu'un est un regard victimisant, ben t'en feras une victime à vie. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas respecter ce qu'elle a vécu. C'est Boris Cyrulnik, un grand monsieur français, qui dit que pour qu'un enfant devienne résilient, il faut qu'il puisse historiciser son trauma. Ça veut dire que moi, en tant qu'éducateur, quand je rencontrais une gamine, je lui disais « Oui, tu as vécu ce que tu as vécu. Et tu as vécu une violence que je ne souhaite à aucune personne sur Terre. » Ça, soyons clairs. Mais à 20 ans, tu veux devenir une jeune fille comment, toi ? De telle manière à ce qu'elle puisse penser sa vie comme n'étant pas surdéterminée par ce qu'elle a vécu. Oui, ça t'est arrivé. Tous les enfants à Gaza ne vont pas devenir des tueurs potentiels ou des méchants. Mais non, et pourtant ils ont vécu des traumatismes qu'on n'ose même pas s'imaginer et que je trouve, on dénonce trop peu d'ailleurs. De quel type d'adultes ces gosses auront besoin ? Est-ce que c'est des adultes qui vont tout le temps les ramener à leur trauma ? Ah ouais, t'as vécu ça, oh mon Dieu. Ou bien est-ce que c'est des adultes qui vont être contagieux d'une attitude ? Oui, tu l'as vécu. Oui, c'est inacceptable. Et jusqu'à la fin de mes jours, je dirais que ce qu'on t'a fait, c'est inacceptable. Mais maintenant, on ne sait pas revenir en arrière. Donc l'après, tu as envie de le vivre comment ? C'est ce type d'éducateur que j'ai envie d'être. Celui qui accompagne le gosse en respectant sa souffrance, mais qui l'accompagne vers un futur qui vaut la peine d'être vécu. Un être humain qui n'a pas un futur qui vaut la peine d'être vécu, il fout sa vie en l'air. Il ne sait pas quoi faire de ses difficultés.
Merci. Merci beaucoup, Agui. Oh, je perds son nom. D'avoir pris le temps entre midi et deux, donc, pour ces 5 minutes d'interview. Donc, nous sommes toujours installés en studio mobile ici au cinéma Le Palace au Vigan. Vous êtes toujours à l'écoute, sur le 103.3, le 102.0, le 104.1 et le .org pour le reste du monde. Eh bien, ici, on a été rejoint, donc, par Madame Aurélie Chandrin. Bonjour. Ah oui.
Bonjour.
Et par Didier Ménard. Pardon ? Oh là là, je me suis trompée, pardon, excusez-moi. J'ai trop pris de notes aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, pardon, je me suis trompée de page. Donc tous les deux, cet après-midi, vous avez mené sur le même horaire, de 14 à 15h30, des ateliers. Alors peut-être, on peut peut-être démarrer. Ça va être une discussion à plusieurs voix, donc il n'y a pas de souci. Donc peut-être déjà un petit peu une présentation très rapide de qui vous êtes et votre parcours.
Oui, donc je suis Aurélie Chandrin, psychiatre au CHU de Nîmes et aussi à l'association éducative du Mascavaillac, au centre Le Perron, voilà. Et on a parlé, et mon activité, c'est sur ces deux structures, c'est de développer surtout des soins pour les jeunes qui débutent des troubles psychiques avec une approche globale, que ce soit dans les appartements thérapeutiques ou dans les consultations. Et puis après, avec le projet PsyTruck qui était comment aller vers eux et aller les orienter, les trouver là où ils sont, en fait.
Une petite présentation aussi, monsieur Trénard.
Donc moi, je suis médecin et en fait, ce que l'on a partagé ou que j'ai partagé, c'est à la fois une trajectoire personnelle, professionnelle, qui m'a permis au fur et à mesure d'expérimenter ce que peuvent être des pratiques coopératives à la fois entre des médecins et des patients dans des enjeux notamment d'éducation thérapeutique pour les personnes qui ont des maladies chroniques. On rejoint tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles aboutissent à la possibilité pour les personnes de gagner un peu en autonomie, en santé et en pouvoir d'agir dans leurs propres environnements de vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou sociaux. Et puis, comment est-ce que ces pratiques peuvent s'appliquer aussi dans le cadre d'une petite commune rurale où l'enjeu d'une démocratie participative était de réfléchir ensemble sur quatre grandes thématiques de ce village, les problèmes de gestion de l'eau, mais à la fois sur le plan des habitants, sur le plan de l'agriculture, de la biodiversité, les enjeux de lien social avec un café social, les enjeux de la mobilité, de l'énergie et puis de la biodiversité.
Alors j'ai pu passer quelques temps dans chaque atelier là, cet après-midi. Donc j'ai démarré avec le vôtre, Madame Chandrin. Donc effectivement, vous avez présenté votre équipe, la villa, mais on va un petit peu s'attarder sur ce qu'a fait le buzz, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le psy-truck. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est ?
Donc c'est des vannes aménagées hein, que les gens utilisent pour partir en vacances, sauf que nous, on a décidé de les utiliser pour aller faire de l'information sur les troubles psychiques et des consultations donc à Nîmes sur des sites universitaires et dans la ville de Nîmes. Et en fait, l'idée elle est venue, c'était un peu... on a beaucoup parlé aujourd'hui de crise, de tous les challenges, et je crois qu'en fait, ça nous... voilà, on avait envie de casser un peu l'image de la psychiatrie, d'aller vers les jeunes, mais finalement, on a aussi été aller vers des partenaires, donc on a rencontré beaucoup d'acteurs différents, et ça nous permet voilà, de parler de la santé mentale, de rencontrer des partenaires et des jeunes, et de proposer rapidement une évaluation. Et après, dans le van, donc on discute avec les jeunes qui veulent et on les conseille sur là où on pourrait les aider au mieux en fonction de leurs problématiques. Donc c'est très varié. C'est des problématiques des fois psychologiques, sociales. Donc on n'oriente pas du tout vers la psychiatrie. Et des fois, on détecte tôt des troubles psychiatriques qui relèvent plutôt de prise en charge à l'hôpital. Et donc on les oriente vers notre structure. Voilà. Et ce qui est chouette avec... le psy-truck, c'est que on avait envie de voilà de qu'on parle un peu plus de la psychiatrie de façon différente, et c'est vrai que comme vous disiez, ça a fait le buzz et ça a permis de parler à la radio comme aujourd'hui de tout ça avec toutes les autres actualités.
Et en même temps, tout à l'heure vous disiez quand même que ce projet, vous y travaillez quand même depuis 2017.
Le psy-truck, c'est plus récent, mais vraiment de pouvoir... oui, voilà, c'était le constat qu'en fait, les jeunes arrivaient en hospitalisation avec déjà des parcours abîmés, qu'ils n'avaient pas pu être repérés avant. Et petit à petit, on allait de plus en plus vers eux. Après, on a plutôt créé un hôpital de jour pour les accompagner dans la vraie vie, qu'ils ne soient pas obligés d'être à l'hôpital, mais qu'ils puissent réaliser leur vie et qu'on puisse les accompagner de façon globale, comme on a dit aujourd'hui dans d'autres secteurs comme le social. Et après, on faisait quand même le constat qu'on n'était pas si bien repéré que ça, comme plein d'autres structures, aussi bien par les gens, mais aussi par les autres, par les soignants, par nos partenaires. Donc le psy-truck, c'était vraiment d'aller à la rencontre et d'aider dans le réseau. Voilà. Donc ça s'est fait petit à petit.
Et l'échange avec donc les personnes qui se sont inscrites à votre atelier, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire de voilà, est-ce que c'était plutôt des échanges d'expérience ou est-ce qu'on vous a plutôt posé beaucoup de questions parce que votre projet voilà attire avec cette manière de la mobilité? Comment est-ce que ça s'est passé?
Oui, c'est vrai que c'était très intéressant parce que je suis plutôt habituée à en parler devant un public de soignants ou de psychiatres. Donc là, on avait plein de partenaires d'autres horizons et c'était très riche aussi. Et finalement, c'était des questions très pratico-pratiques sur les gens qui venaient nous consulter. Puis après, comment aussi les orienter avec, on sait, toutes les difficultés qu'il y a des fois à travailler quand il y a des pathologies duelles, en partenariat et avec les délais d'attente qu'il y a. Donc nous, c'est vrai qu'on ne se substitue pas à l'offre de soins, mais on essaie d'être un facilitateur. Voilà. Donc on a beaucoup parlé de ça, et puis après un peu de comment ça pouvait s'inscrire, comme on en a parlé dans la journée, plus largement. Chose que nous, on avait, et c'était ça qui était très riche pour nous aujourd'hui, on ne s'est pas toujours interrogé sur comment ça s'inscrivait dans quelque chose de plus global dans notre société. On a un peu foncé dans le projet sans forcément réfléchir à ce que ça allait avoir comme impact plus général.
Et est-ce qu'il y a eu des questions des participants, des questions très précises, par exemple, sur votre quotidien, comment est-ce que vous travaillez ou pas forcément ?
Si, si, tout à fait. On nous a demandé si c'était compliqué parfois. Est-ce que parfois on allait chez les personnes ? Donc on disait que ça, c'était pas vraiment dans le projet Psy Truck, mais en effet que la villa, l'équipe, lorsqu'on est alerté sur une situation de trouble, par exemple psychotique, débutant et qu'on pouvait se déplacer. Est-ce que c'était compliqué ? Est-ce qu'on arrivait aussi facilement à travailler ? Oui, donc on a échangé quand même sur nos pratiques et avec d'autres personnes qui, eux aussi, travaillent dans des équipes mobiles et un peu les points communs qu'on a, les enjeux, voilà, les difficultés, mais aussi les choses positives de ces dispositifs.
Monsieur Trénard, moi, quand je suis arrivée dans votre atelier, ça parlait de financement, ça parlait d'Europe, ça parlait de milieu rural, de petits villages, ça parlait aussi de bénévoles, ça parlait aussi de comment est-ce qu'on prend la parole. Est-ce que vous voulez aussi un petit peu nous donner un petit bilan de ce qui s'est passé dans votre atelier ?
On a parlé de beaucoup de choses. Je pense que ce qui est transversal, c'est de se dire que si on veut créer des relations un peu horizontales entre les gens, ça ne se fait pas tout seul. C'est pas inné. Y a ceux qui partagent, ceux qui partagent pas, ceux qui parlent, ceux qui parlent pas, etc. Et donc, on a besoin de méthodes pour y arriver. Il y a la nécessité de structurer un peu une méthode pour que les uns et les autres puissent échanger. Ça crée des rapports de pouvoir différents. Il y a les transformations de pouvoir dès qu'on veut faire du travail collectif. Et ces transformations de pouvoir, il faut pouvoir les assumer ensemble. Pour les assumer ensemble, il faut en parler. En parler, ça veut dire qu'on utilise les mêmes mots. Et du coup, il y a des transformations culturelles aussi qui sont nécessaires. Et puis, il faut une organisation. Et c'est la transformation organisationnelle qui, elle, va aider à ce que l'on puisse créer une sorte de cheminement ensemble qui va aboutir à des délibérations, et puis dans ces délibérations, il va y avoir des propositions de solutions. Ces solutions vont être un peu itératives, c'est-à-dire qu'on va en tester une, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que l'on crée finalement un compromis qui crée à la fois des réponses aux attentes de chacun, c'est essentiel, et en même temps ce qu'on peut appeler du commun, c'est finalement ce qu'on a réussi à faire ensemble sur un sujet, par exemple sur le sujet de l'eau. Si on travaille ensemble sur la gestion de l'eau par les habitants, la gestion de l'eau par les agriculteurs, la gestion de l'eau pour la biodiversité, bien finalement, les solutions qu'on va trouver, ça crée un commun tous ensemble. Et ce commun, c'est du patrimoine qui a été créé collectivement. Et ça, c'est essentiel pour une communauté comme un petit village. Et ça crée, à ce moment-là, la possibilité d'avoir des espaces d'expression des uns et des autres. Et ces espaces d'expression sont autant de lieux de lien social et de travail ensemble. Alors, c'est pas tellement aller vers que venez vers, voilà. C'est-à-dire d'une proposition de venir vers ce travail collectif pour y participer. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas envie de le faire. C'est juste créer l'ouverture pour que les uns et les autres, quand ils le veulent, puissent venir pour y participer. Voilà.
Et dans votre atelier aussi, est-ce que vous avez plus eu des échanges d'expérience ou plus des demandes de conseils, d'accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est aux participants de le dire.
On va en recevoir sur la dernière partie de l'émission.
Justement, je pense qu'il y a eu des échanges d'expérience, il y a eu des demandes de conseils, de compréhension, comment en fait on arrive à mettre en place ces dispositifs. C'est pas si simple. La démocratie participative sur un village, c'est un peu un leurre. Probablement, c'est plus productif quand on le fait sur une action, c'est-à-dire sur un projet, parce que quand on a envie d'aller sur un projet, on en fait son territoire. Et l'histoire du territoire, c'est pas un territoire géographique, finalement, de village. Ce sont les territoires d'action et de projet auxquels les gens adhèrent parce qu'ils s'y retrouvent et qui vont trouver là les réponses aux questions qui se posent. Et bien, c'est exactement la même chose que, finalement, on fait dans le métier médical. C'est-à-dire de dire que à partir du moment où on va rencontrer quelqu'un, ce n'est pas pour faire un diagnostic, c'est pour travailler avec la personne sur ce qui lui arrive et ce qui lui manque. Et à ce moment-là, de chercher ensemble des solutions. Il y a des propositions que peut faire le médecin, mais il y a des propositions que peuvent faire les personnes aussi. Et c'est finalement ce dialogue entre les deux, hein, qui sont deux logiques différentes qui se rencontrent, mais qui construisent ensemble des compromis et des solutions qui sont utiles pour la vie de la personne.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce plateau radio. On va partir en musique. Radio Escapade est toujours en direct ici du cinéma Le Palace au Vigan. Donc, pour la clôture de la journée décalée, 3e édition, avec le thème L'aller vert en travail social. Et justement, donc, la dernière partie de cette émission, on a été rejoint justement donc, par 4 personnes qui ont participé à toute la journée, hein, les conférences matin, les ateliers. Donc, je vais commencer avec Valérie Capot, bonjour.
Oui, bonjour.
Thibaut Fradet.
Bonjour.
Jessica Tessier et Nathalie Santeur. Et Nathalie Santeur.
Bonjour.
Alors peut-être vous allez, ça va être un petit peu une discussion aussi un petit peu à quatre, mais peut-être déjà présenter un petit peu d'où vous parlez. Voilà, quel est votre travail pour qu'on un petit peu qu'on se rende compte voilà de quel champ vous venez.
Oui, donc moi je Valérie Capot, je suis médiatrice en santé au sein d'une communauté professionnelle territoriale de santé, donc une CPTS. Qui couvre.
Alors, CPTS, pour les auditeurs et les auditrices, est-ce que vous pouvez expliquer ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une association qui regroupe des professionnels de santé sur un territoire et voilà, qui permet de coordonner les soins, de permettre un meilleur accès aux soins et une meilleure coordination entre tous les professionnels de santé. Donc, moi, en tant que médiatrice en santé, donc ce sont des nouveaux postes. Moi, je suis en poste depuis le mois de décembre, donc c'est vraiment très récent. Et ma mission, c'est vraiment de favoriser l'accès aux soins des personnes qui se retrouvent en rupture de soins ou en difficulté d'accès aux soins, en essayant de lever les freins. Après, ça va être vraiment avec la personne. Hein, donc, j'identifie avec elle quels sont ses besoins. Et l'idée, c'est de faire le lien entre les professionnels de santé et les bénéficiaires pour améliorer leur accès aux soins, en fait. Voilà.
Merci. Thibault, une présentation ?
Oui, bonjour, Thibault Fradet. Moi, je viens avec deux casquettes. La première, c'est travailleur social à la base, et j'occupe actuellement un poste de direction sur des services d'hébergement d'urgence, hébergement d'insertion et de logement accompagné sur l'association GAM à Montpellier. Et je fais partie du conseil d'administration d'Intered.
Ah ben oui. Voilà. Et oui, donc il y a cette casquette-là aussi.
Aussi.
Jessica ?
Oui, c'est moi. Bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis de formation de travailleur social. Je suis conseillère en économie sociale et familiale et responsable de secteur au sein de l'association Bonjour Présence 30, qui est un service d'aide à domicile sur le secteur viganais essentiellement.
D'accord, oui. Donc là, c'est vraiment local ici. OK.
Donc moi, Nathalie Centenaire. Donc en fait, c'est la même présentation que ma collègue, puisque je suis conseillère ESF aussi à la base et responsable de secteur dans l'aide à domicile pour l'association Bonjour.
Alors, puisque vous avez le micro, vous allez le garder. Vous avez participé à quel atelier cet après-midi ? Et peut-être vous donner tout de suite un petit peu votre ressenti. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi ?
Alors, moi, j'ai participé à l'atelier 3. Donc, c'était Didier Saunier et Nancy Morin qui nous ont présenté les dispositifs qu'ils ont développés depuis plusieurs années. Et c'était des dispositifs, c'est en fait un véhicule aménagé qui va au plus près des personnes en difficulté pour favoriser l'accès aux soins, l'accès à la santé. Et c'était des dispositifs, malgré qu'on soit sur le territoire, que je ne connaissais pas et qui sont... vraiment très intéressants, qui sont inventifs. C'est vrai qu'on en a parlé, enfin, ce matin on en a entendu parler, on doit faire toujours plus avec moins. Et c'est vrai que de voir qu'il y a des dispositifs comme ça qui sont créatifs, ben, ça redonne de la motivation dans notre travail.
Ce qui veut dire que localement, même si on est deux structures sur le Vigan, on arrive encore à apprendre des choses au niveau de ce qui existe pour l'accompagnement pour la personne.
En fait, on est plus que deux structures. Il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs qui existent, qui sont portés par des partenaires différents. Et c'est vrai qu'on est sur un petit territoire, donc on arrive à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. Mais malgré tout, on est chacun quand même sur notre couloir d'activité.
Et, oui, oui.
Et voilà, on a un peu le nez dans le guidon. Et c'est vrai que des journées comme ça, ça nous permet d'avoir une journée de respiration, de réfléchir, de prendre du recul et de se remobiliser et voilà, rencontrer des partenaires.
Pareil, quel atelier cet après-midi et un peu le ressenti ?
Alors moi, j'étais sur l'atelier numéro 2, la présentation du dispositif PsychTruck. Moi, c'était un dispositif que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai appris à connaître le dispositif. Moi, travaillant sur l'Hérault, j'ai aussi fait des liens entre le Gard et l'Hérault. Ça allait totalement dans la thématique qui était aujourd'hui de l'allée vert. Donc ça a pu rejoindre tout ce qui avait été dit ce matin. Aussi d'être à la croisée des chemins entre le sanitaire et le social, parce que c'est souvent deux champs d'action qui travaillent ensemble, mais pas forcément avec des cultures professionnelles communes, mais qui travaillent pour et aller en ce sens-là. Après, on a eu aussi la présentation de toute l'évolution du dispositif, du début jusqu'à aujourd'hui, et tous les efforts et toute l'énergie qui a été déployée pour pouvoir y arriver. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est ça aussi qu'on peut retenir. Donc c'était, moi, pour ma part, plutôt instructif. Enfin, j'ai apprécié de pouvoir découvrir tout ce dispositif-là. Et je le mets aussi en lien avec les conférences de ce matin, où effectivement, moi, c'est une journée qui fait du bien. Voilà. Que ce soit avec les présentations des ateliers et avec tout ce qui se fait, tout ce qui est innovant. Et aussi de pouvoir réfléchir sur sa pratique. Et bon, je retiendrai deux éléments essentiels. C'est se donner du temps, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ensemble. Et que prendre des risques, il faut continuer à le faire. Et savoir dire non et ne pas avoir peur de dire non sur ce qu'on ne veut pas, c'est très important aussi. Voilà, je pense que c'est ce que tout le monde a essayé de défendre aujourd'hui.
Oui, puis j'imagine que pendant la pause déjeuner, ça a dû aussi échanger pas mal autour des tables.
En travail social, l'off est très important.
Oui, 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 exactement. Mais souvent, le off est important. peut-être aussi l'atelier, vous avez participé
au... J'ai participé au même atelier du coup.
Oui.
Donc voilà, que tu as très bien présenté. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir un dispositif d'aller vers, mais concernant la santé mentale, c'est assez, c'est très innovant. Et du coup, voilà, vu que les problèmes de santé mentale, moi, je les ressens au quotidien dans mon travail. Donc ça m'a permis de voir des dispositifs... qu'il peut y avoir sur le territoire et ça peut aussi donner voilà, des idées pour des projets futurs ou voilà, de se dire qu'il y a des choses qui existent et pourquoi pas après les développer. Voilà, ça peut permettre... Oui, ça donne des idées, des journées comme ça permettent de voir tout ce qui existe et de faire émerger des nouvelles idées en fait et de prendre du recul sur son travail, sur sa pratique, sa posture également.
Et trouver le sens aussi. Oui. Ça a beaucoup parlé de sens aujourd'hui. Oui. J'imagine que ça vous a... On va continuer. Hein, mais j'imagine que l'histoire du sens, elle doit aussi quand même questionner quand on... Même moi, je me suis questionnée, alors que je ne suis pas du tout de votre secteur, mais parce qu'on l'a vachement entendu toute la journée. Et voilà, ça doit quand même un petit peu vous poser question, vous titiller. Qu'est-ce que ça fait personnellement, en fait, sur une journée comme ça?
Ça permet de retrouver du sens justement à son travail, de voir que les difficultés sont partagées par tout le secteur, mais en même temps avec l'espoir de voir qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui se créent et de se dire quoi, ben on est plein de ressources malgré les difficultés, les choses bougent. Justement, c'est dans la difficulté, je pense, qu'on est obligé d'innover, de trouver des astuces, des nouvelles idées. Et donc voilà, c'est pas les difficultés qui vont arrêter les travailleurs sociaux.
Vous avez participé à quel atelier ?
J'ai participé à l'atelier 3 également sur les dispositifs plutôt locaux de l'Allée Vert. Un peu comme les collègues, je trouvais plutôt très positif qu'on mette en avant justement des dispositifs qui fonctionnent, parce qu'on parle beaucoup sur nos territoires des déserts médicaux, des côtés plutôt négatifs, et de voir qu'il y a des dispositifs qui émergent d'associations et d'acteurs locaux et qui fonctionnent, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et on a abordé deux points que j'ai trouvé assez chouettes, c'est le décloisonnement entre le milieu médical et le milieu social, que nous, on vit beaucoup dans notre quotidien de travailleurs sociaux, au travers de ces dispositifs, le fait qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire qui a à la fois le côté travailleur social, mais le côté soit infirmier, soit médecin, qui complète au niveau des équipes et qu'on prenne en charge vraiment la personne dans sa globalité au niveau de l'accompagnement. J'ai trouvé ça très intéressant. Et le deuxième point, c'est justement le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de dispositifs de mis en place par tous les partenaires sur le secteur qui permettent de prendre en charge tous les aspects de la vie, à la fois sur le logement, sur la santé, sur l'accès aux droits. C'est vraiment ces deux aspects-là que j'ai beaucoup apprécié cet après-midi.
Et est-ce que, la question est pour tous les quatre, hein. Est-ce que sur une journée comme ça, on peut partir avec justement des contacts pour un travail collaboratif avec une autre structure, parce que voilà, il y a eu le temps entre midi et deux d'échanger. Est-ce que ça, c'est des choses concrètes qui peuvent arriver sur une journée comme ça?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des journées qui permettent de se retrouver en tant que professionnel. On n'a pas forcément beaucoup de journées sur le secteur qui permettent de rassembler autant de professionnels, de travailleurs sociaux. Et ça permet de nouer des contacts et de faire émerger peut-être des partenariats. Et voilà, donc c'est très intéressant pour ça, ce type de journée. Donc merci.
Oui, nous, très concrètement, on en parlait tout à l'heure avec Nancy. On fait partie également de la CPTS sur le territoire et on parlait de se mettre en lien avec la PIMAS pour organiser des actions autour de la vaccination sur le territoire. Donc, très concrètement, ça a permis justement de reprendre contact puisqu'on est déjà régulièrement, mais voilà, de concrétiser, on va dire, ce partenariat.
Merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce que quelqu'un a envie de, voilà, de dire un dernier mot sur la journée ? Non, ça va ?
Non, plutôt de remercier en effet les personnes qui ont permis que la journée puisse se faire, les différents participants. Les conférences étaient en effet très intéressantes ce matin, donc plutôt un côté très positif et un remerciement.
Ben, merci à tous les quatre, en tous les cas, d'être venus sur le plateau radio pour nous faire part de votre expérience de la journée. Merci beaucoup. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Je voudrais vraiment remercier Nancy et Katerina vraiment pour leur confiance. Parce qu'en fait, c'est une émission qui se prépare quand même, on peut le dire. Hein. Le premier contact a été au mois d'octobre, les premières réunions au mois de décembre. Et puis voilà, donc on est arrivé au 6 juin finalement. Voilà, donc merci vraiment. vraiment beaucoup à toutes les deux. Et je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes. Et bien sûr, cette émission se retrouvera en podcast sur la page Escapade et vous. Bonne continuation.
Escapade et vous. En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.